Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains pour reprendre notre série sur cette lettre. Nous avons laissé Paul nous décrire le croyant comme étant celui qui a reçu l'esprit d'adoption, qui connaît une intimité avec Dieu le Père et qui va pouvoir même appeler Dieu Abba, Père, et c'est le témoignage de l'Esprit Saint à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et alors que nous atteignons ce sommet, Paul a rajouté que cela est vrai si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et nous reprenons donc au verset 18, nous allons lire les versets 18 à 25. Et voici donc la parole de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans cette merveilleuse lettre de l'apôtre Paul, il y a des passages où Paul explique l'assurance, le réconfort qu'apporte l'Évangile. Si, par exemple, au début de ce chapitre, il a pu dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si ça c'est vrai, alors ce qu'il va dire à la fin du chapitre, au verset 39, est aussi vrai, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce n'est pas la première fois qu'il aborde la question d'assurance pour le croyant, cette assurance qu'apporte l'Évangile dans ces chapitres 5, 6, 7 et 8 sur lesquels nous passons du temps en ce moment. Chaque fois que Paul parle des privilèges qu'apporte l'Évangile, il, à un moment donné, donne l'assurance que ces privilèges ne sont pas temporaires, mais que ce sont bien des privilèges permanents. En chapitre 5, verset 1, par exemple, il dit « Nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Et puis il dira plus loin, verset 10, « Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit, si nous sommes justifiés, nous ne devons pas croire un seul instant que le Seigneur qui est mort pour notre justification va maintenant nous abandonner, maintenant qu'il est ressuscité. Paul va glisser au milieu de son argumentation des paroles de réconfort. On retrouve par exemple la même chose au début du chapitre 6. Et il nous a dit que nous ne pouvions pas continuer à vivre dans le péché, que c'est même une lutte de ne pas vivre dans le péché. Mais à la fin du chapitre, au verset 23, il nous rassure, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, ce n'est pas une vie temporaire en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au chapitre 7, où Paul a développé la question des luttes dans la vie chrétienne, l'agonie que peut connaître le croyant, vous rappelez de la fin de ce chapitre. Il s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu », des mots de triomphe. « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Et ici, au chapitre 8, on est en quelque sorte devant une avalanche d'assurance, une avalanche de réconfort. Paul ne cesse de souligner la puissance de l'Évangile, la capacité de l'Évangile à maintenir, à garder ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Pourquoi est-ce que nous sommes assurés d'être sauvés au jour du jugement, au jour dernier, au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ? À cause de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ça, c'est les premiers versets du chapitre 8. Pourquoi est-ce que nous sommes assurés de persévérer? Parce que nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'Esprit, versets 5 à 13. Pourquoi est-ce que nous sommes confiants que Dieu ne va pas nous abandonner? Parce que maintenant, nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes maintenant ses héritiers, nous sommes maintenant les co-héritiers de Christ. Nous bénéficions de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour nous, versets 14 à 17. En d'autres mots, Paul nous dit ici que notre salut est aussi sûr que l'entrée du Seigneur Jésus-Christ dans l'héritage que le Père lui avait promis de donner. Pourquoi ? Parce que nous sommes cet héritage. Nous sommes ce que le Père a promis à son Fils. Et même si nous nous sentons faibles, nous, le croyant, nous nous agrippons à un Sauveur qui est infiniment puissant. Un Sauveur qui est capable, qui ne va jamais lâcher la brebis qu'il est venu chercher, pour laquelle il est mort. Un Sauveur qui, jusqu'à son retour, se tient à la droite du Père pour intercéder en faveur des siens. Mais Paul est très réaliste et il dit que ces choses sont vraies si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Paul ne dit pas que nous devons connaître une certaine quantité de souffrance pour être qualifiés pour la gloire. Ça, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, il dit que ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont destinés à la gloire, ceux qui sont les co-héritiers de Christ, sont les héritiers non seulement de la gloire dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est entré, mais sont aussi les héritiers des souffrances que le Seigneur Jésus a connues. Alors, bien entendu, nous ne partageons pas la nature expiatoire des souffrances. Mais on ne peut pas appartenir à un Sauveur crucifié et ressuscité en vivant dans ce monde sans partager ses souffrances. En partageant, mais pas seulement ses souffrances, en partageant aussi la puissance de sa résurrection. C'est pour ça qu'il y a toujours deux dimensions dans la vie chrétienne. Il y a la partie glorieuse, la partie victorieuse, la partie joyeuse, la partie excitante. Mais en même temps, il y a la difficulté, il y a les souffrances, il y a les soupirs. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a amenés dans la famille de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous pour nous, pour former un air de famille. Cet air de famille a d'abord été vu dans le Fils aîné, dans notre Seigneur Jésus-Christ, où il était clair que les souffrances étaient le chemin vers la gloire. Et cet air de famille, dans une certaine mesure, et selon le dessein de Dieu, sera reproduit dans la vie de chaque croyant. Et ça pourrait être très décourageant pour nous. Et c'est pour ça que Paul va nous donner encore une assurance, un réconfort. Et il dit ceci, les souffrances que nous connaissons ne sont que des anticipations de la gloire à venir, de cette gloire qui sera révélée. Ces souffrances deviennent le matériau duquel la gloire est produite. Rappelez-vous un autre passage où Paul parle de cela, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 17 et 18. Il écrit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos afflictions, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Là, on a envie de dire à l'apôtre Paul, attends Paul, tu rigoles. Plus loin dans cette lettre, tu vas parler des nombreuses afflictions, de toutes les fois où tu as été battu, des fois où tu as eu à faire naufrage, des fois où tu as été menacé. Ces légères afflictions du moment présent. Et Paul le souligne, ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et ici, au chapitre 8 de Romains, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Bien sûr, Paul ne dit pas ici que les souffrances sont légères, que les souffrances sont petites. Non, elles peuvent faire horriblement mal. Mais quand on les considère à la lumière de la gloire qui doit être révélée, quand on les considère à la lumière de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies à travers ces souffrances, alors on commence à comprendre pourquoi il n'y a aucune comparaison possible entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit être révélée. Quand Paul parle de la gloire qui doit être révélée pour nous, il ne veut pas dire que nous sommes simplement les spectateurs, que nous allons dire aux uns et aux autres « Ah, ça c'est glorieux, n'est-ce pas ?» Non, cette gloire que nous allons admirer, cette gloire va venir comme les vagues de l'océan. Elle va nous couvrir, elle va se saisir de nous dans toute sa majesté. Elle va être révélée au plus profond de nous. Quand on commence à saisir l'Évangile, on commence d'abord à comprendre intellectuellement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Puis on commence ensuite à ressentir avec nos émotions, avec nos affections, et réaliser qu'en fin de compte, ces souffrances que nous connaissons ne sont pas les obstacles dans le dessein de Dieu, mais qu'elles sont le dessein de Dieu pour notre vie. C'est au travers de ces souffrances qu'il nous forme, qu'il nous transforme, comme Paul le dira dans sa lettre aux Corinthiens, pour aller de gloire en gloire, d'une mesure de gloire à une autre. Et Paul fait quelque chose de très intéressant ici. Quand Paul a parlé du croyant comme étant l'enfant de Dieu, il dit que cette vérité est confirmée par deux témoignages. Il y a le témoignage du croyant, et il y a le témoignage de l'Esprit. Et ces deux témoignages se réunissent dans ce cri du croyant, « Abba, Père !» Et maintenant, Paul appelle deux témoins pour parler de la gloire qui doit être révélée pour nous. Et il veut que nous réalisions que ces deux témoins nous dirigent nos regards dans une même direction. Qu'ils décrivent quelque chose de la majesté de la gloire qui sera révélée pour nous. Et quand nos yeux sont fixés sur cette gloire, alors on commencera à comprendre qu'en comparaison à cela, les souffrances temporaires sont en fait très petites parce que cette gloire est très grande. Et c'est très important dans tout le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament regarde à notre vie actuelle à la lumière de la vie à venir, et pas l'inverse. Nous avons tendance à regarder à la vie à venir à la lumière de la vie actuelle. Mais ce n'est pas de cette façon que l'Évangile nous encourage à voir ni le présent ni le futur. Ceux qui ont le plus grand impact dans ce monde sont ceux dont les regards sont fixés sur les choses à venir, sur les choses d'en haut, sur la gloire à venir. Et ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi. Quand on a une vision de cette gloire qui remplit notre horizon, on ne peut plus vivre dans le monde de la même façon. comme si on était un simple citoyen de ce monde. Paul donc nous aide à comprendre que quelles que soient les souffrances, quelles que soient les luttes, quelles que soient les épreuves, nous devons les voir à la lumière de cette gloire qui sera un jour révélée et comprendre que ces souffrances, ces difficultés sont en fait les instruments que Dieu utilise pour nous forger, nous former. Alors, quels sont les deux témoins que Paul appelle? Le premier, dans les versets 19 à 22, le premier témoin est la création. La création tout entière attend la révélation de cette gloire. Verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Cela nous renvoie à un passage dans la première lettre de Jean, chapitre 3, que je pense, sur lequel Jean-Claude va revenir dans deux semaines, lorsque je serai absent. 1 Jean 3, versets 1 et 3, où l'apôtre écrit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » La création attend la révélation des fils de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Paul est en train ici de décrire la création qui essaye de voir ce qui arrive à l'horizon. Elle attend avec un ardent désir la révélation finale des fils de Dieu. Le langage ici, c'est quelqu'un qui se met sur la pointe des pieds, comme quand on essaye de voir sa star préférée, son joueur préféré, ou comme un parent qui essaye de voir son petit enfant au milieu d'une foule. On essaye de se mettre au-dessus des autres pour voir, pour essayer de voir. Voilà le langage qui est là. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde n'a aucune considération pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font dans un salon le dimanche matin? Qu'est-ce qu'ils font dans un salon un dimanche matin? Le monde va mépriser, le monde va rabaisser les chrétiens. Mais le monde n'a aucune idée de qui nous sommes en Jésus-Christ. La création, elle attend ce jour de la révélation des fils de Dieu. Et Paul va le développer. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que, verset 20, la création a été soumise à la vanité. Et Paul se rappelle de ce que Moïse a écrit en Genèse chapitre 3, quand il décrit le jugement de Dieu sur la création. Dieu s'adresse à Adam. « Adam, le travail jusqu'ici était facile, le travail jusqu'ici était un délice. Mais à partir de maintenant, à partir de ce jour, de ce moment où tu as désobéi, tu vas te battre. Tu vas te battre. Les épines, les chardons vont venir détruire ton travail. » Et on voit les évidences de cette réalité. On voit les frustrations de la création. Quand on pense à l'histoire de cette terre, au travers des siècles, cette terre semble ne jamais avoir accompli son potentiel. Il y a des tremblements de terre, il y a des catastrophes naturelles. Et Paul nous dit, mais ne comprenez-vous pas ce qui se passe? La création a été soumise à la vanité par le jugement de Dieu. Paul va personnifier la création et il dit qu'elle attend ce jour de la révélation. Elle attend ce jour où elle sera délivrée de cette terrible vanité. Les marches pour la planète, comme il y en a eu hier, peuvent peut-être faire réfléchir les politiques, mais elles ne vont pas changer l'attente de la création. La création attend le jour de la révélation des fils de Dieu pour être elle-même affranchie de la servitude de la corruption. Et quand toute l'angoisse, toute la folie que l'on peut retrouver dans le monde animal, quand tout cela sera amené à sa fin, comme Ésaïe le dira au chapitre 11, verset 6 et dans d'autres passages, le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Vous lirez les passages parallèles. Et Paul nous demande, mais est-ce que vous voyez ces choses? Est-ce que vous voyez que la création pointe vers ce jour, ce grand jour, quand elle sera libérée de ces chaînes qui la maintiennent dans le déclin? Paul parle même au verset 22, il utilise l'image d'une femme en plein accouchement. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle attend cette nouvelle naissance en quelque sorte, cette recréation quand elle sera libérée. Et Paul comprend le mécanisme de cette libération. Ce qui a amené cette création dans cette frustration, dans cette vanité, c'est la chute d'Adam, c'est le péché d'Adam. Et donc le mécanisme de déclenchement que Dieu doit utiliser pour amener la restauration, la recréation de la création, ce doit être ce dont il a parlé au chapitre 5. Le deuxième Adam, le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ qui, dans sa résurrection, n'a pas seulement brisé la puissance du péché, de la mort et de Satan, mais il a aussi brisé tous les désordres de la création. Il est devenu le premier-né de la nouvelle création, d'un monde que Dieu va amener à l'existence, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ répétera la puissance de sa résurrection dans les corps fragiles, dans les corps morts de tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont aimé. Nous vivons dans un monde qui tend vers ce jour, qui attend ce jour. Ce monde gémit, cette création souffre les douleurs de l'enfantement. Elle attend ce jour avec impatience. C'est le premier témoin. Mais le deuxième témoin, le dit Paul, versets 23 à 25, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les croyants. La création attend avec un ardent désir le jour d'un nouveau commencement. Paul nous dit que les enfants de Dieu attendent ce jour aussi, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est comme si Paul nous disait ici, est-ce que vous entendez le soupir de la création dans le souffle du vent, dans la colère des animaux, dans ces symphonies étranges de catastrophes naturelles? Mais ces soupirs, ce soupir-là, en fait, n'est qu'un écho du soupir du peuple de Dieu qui a reçu les prémices de l'Esprit. Et quand l'Esprit est venu habiter en eux comme l'Esprit du Sauveur ressuscité, le vrai croyant ne peut que soupirer et désirer de ce jour où il verra l'œuvre que Dieu a commencée en eux par sa grâce être achevée. Remarquez en passant que lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu comme les prémices de ce salut final, on ne s'arrête pas de soupirer. Mais on soupire d'une nouvelle manière. Il ne faut pas croire les personnes qui nous présentent un évangile ou une vie chrétienne en nous disant qu'il est possible de vivre dans ce monde en étant libre de tout soupir. Si on vit dans le monde en étant libre de tout soupir, alors on a coupé le cordon ombilical de la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas vivre dans ce monde déchu, ce monde pécheur, dans ce corps qui reste marqué par le péché, avec lequel nous luttons contre le péché qui est encore en nous, et désirer le retour du Seigneur Jésus-Christ sans pouvoir dire « Je suis témoin de cette gloire qui doit être révélée et j'attends avec impatience qu'elle soit révélée. » La raison pour laquelle j'attends la révélation de sa gloire, c'est parce que j'ai déjà goûté à cette gloire. Dieu m'a donné son esprit et je désire connaître encore davantage. On ne peut pas vivre dans ce monde en tant que croyant, sans soupirer. Parfois, Dieu nous donne des occasions où l'on se retrouve avec des frères et sœurs rassemblés lors d'un culte, par exemple. Et on ressort de ce moment en disant, mais si seulement je pouvais revivre des moments pareils. Pourquoi ? Parce qu'on a goûté quelque chose de la présence de Dieu, un avant-goût de cette gloire. Et jusqu'au jour où l'on sera pleinement satisfait avec la gloire qui sera révélée pour nous et en nous, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Bien entendu, nous sommes déjà adoptés. C'est le privilège du croyant. Si nous sommes à Christ, nous avons déjà été adoptés dans la famille, nous avons déjà reçu l'esprit d'adoption. Mais on n'a pas l'air d'avoir été adopté. Si quelqu'un marche dans la grande rue à Châlons, il nous sera difficile de dire si cette personne a reçu l'esprit d'adoption. Si cette personne est en route vers la gloire. Mais Paul nous dit que le jour vient où cette réalité sera visible de tous, quand tous les véritables enfants de Dieu entreront dans la gloire. Nous, comme l'apôtre Jean le dit dans ce passage que nous avons cité, 1 Jean 3, verset 2, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela paraîtra, nous serons semblables à lui. » Semblables à lui, imaginez, ce jour-là, nous serons transformés, nous serons rendus parfaits. Paul parle même de la rédemption de notre corps. Alors certains attendent ce jour peut-être avec plus d'ardeur que d'autres. Aujourd'hui, on se réveille avec un mal de dos ou avec des difficultés respiratoires. Ou alors on cherche désespérément nos lunettes parce qu'on ne voit absolument rien. Ou alors d'autres infirmités. Et on attend ce jour où l'on sera transformé. Et ce n'est pas simplement une bonne réparation par le meilleur chirurgien. Non, c'est une transformation radicale, rendue semblable à Christ. Tout ce qui est une source de frustration pour nous aujourd'hui, nos luttes avec le péché, nos manquements envers le Seigneur Jésus-Christ, le mal que l'on fait à ceux que l'on aime, de tout cela, nous serons délivrés et nous serons radicalement transformés. Et ce sera une transformation irréversible à l'image de Christ. Et parce que nous avons déjà reçu un avant-goût de cela en recevant l'esprit d'adoption, nous désirons plus, nous voulons plus et nous attendons ce jour avec impatience. Comme la création, nous sommes sur la pointe des pieds. Nous cherchons à voir ce que Dieu va faire quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir et fermer le livre de l'histoire. Paul nous donne quelques détails dans un autre passage et je vous invite à tourner dans ce passage dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Si vous avez vos Bibles avec vous, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. Paul écrit ceci, « Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, de ceux qui dorment. Il est les prémices d'une moisson finale, et la résurrection de Christ garantit la moisson. Il est les prémices de ceux qui sont morts, qui dorment. » Verset 21, « Car puisque la mort La vanité, la futilité, tout cela. La mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Gardez votre doigt au verset 22, allez jusqu'au verset 42. Paul va développer cette question de la résurrection. Il dit « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » Verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie. » Et il conclut, verset 47, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Et si on revient au verset 24 et suivant, Paul nous dit que tout cela prend place selon un ordre bien précis. Cela a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité pour nous, le premier-né de la nouvelle création. Et il dit qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent seront ressuscités. Et lorsqu'il aura tout mis sur ses pieds, tous ses ennemis sur ses pieds, il remettra le royaume à son Père, après avoir détruit toute autorité, toute puissance. Lorsque toutes ces choses lui auront été soumises, alors le Fils, le deuxième homme, le deuxième Adam, qui est venu défaire tout ce que le premier Adam a fait, qui a brisé toutes les puissances qui nous retenaient captifs, ce deuxième homme, qui est aussi le premier ressuscité dans l'histoire, conduira tous ceux qu'il a ramenés à la vie, tous ceux qu'il a transformés, la compagnie des rachetés. Il les conduira dans la présence du Père, dans la gloire, dans une création renouvelée. Il dira au Père, « J'ai terminé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Quand ces choses remplissent l'horizon de notre esprit, il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, nous attendons avec un ardent désir, en même temps, que nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons ce jour où la gloire sera révélée. Nous attendons ce jour, mais en même temps nous soupirons en nous-mêmes. Un non-chrétien ne peut pas le faire. Et deuxièmement, nous attendons avec patience et dans l'espérance. L'espérance dans la Bible, vous le savez, ce n'est pas « j'espère que ça va arriver ». Non, c'est « je sais que ça va arriver », même si ça n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça arrive. La création tout entière pointe vers ce jour de la révélation de la gloire. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, nous attendons avec un ardent désir ce grand jour où nous connaîtrons l'adoption finale. En tant que fils de Dieu, la rédemption de notre corps, la libération de ce corps de mort. Mais il y a un troisième soupir. Il y a le soupir de la création, il y a le soupir du croyant, et dans les versets qui suivent, il y a le soupir de l'esprit. Et si le Seigneur tarde à venir, c'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.